Et ben voilà, 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 on papote et on en oublie que la chanson était finie, qu'il y en avait une autre qui partait, c'est très bien aussi. Mais voilà, donc on est sur jusque 16h dans le village au possible sur Radio Esperanza, radio.esperanza.be. Et on a des invités, parce qu'on est dans le village au possible, du coup, au possible ou des possibles finalement. Prenez un micro. Hein, parce que,
possible.
Des possibles, voilà. En même temps, oh, c'est beau. Ouais, ouais. Village des possibles, il y a toutes les assos en fait qui sont partenaires du festival et actives au niveau de la thématique. On est en plein milieu et du coup on va pouvoir en inviter pas mal à chaque fois qu'on sera avec Culte. Et là on reçoit la coordination Semira Adamo avec Mathieu et Laurette. Bonjour.
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 Alors pour les auditeurs peut-être plus jeunes... ou les auditeurs en fait qui n'étaient pas en Belgique il y a 20 ans. Qui était Semira Adamo?
Semira Adamo, c'était une jeune Nigériane qui avait 20 ans il y a 20 ans. En 98, elle est arrivée en Belgique, demander l'asile et on lui a refusé l'asile comme à beaucoup de migrants et à beaucoup de migrantes en particulier. Elle venait pour des raisons... spécifiquement féminine, à savoir qu'elle refusait un mariage forcé que lui imposait sa famille avec un polygame qui était en plus violent. Ça n'a pas été pris en compte comme motif de demande d'asile, donc on lui a refusé l'asile. On l'a enfermé en centre fermé, à l'époque on en parlait peu des centres fermés, et Semira est quelqu'un qui a vraiment témoigné, résisté aux centres fermés, a fait connaître grâce au collectif contre les expulsions ce qui se passait dans les centres fermés. Elle a résisté à plusieurs tentatives d'expulsion et elle dérangeait beaucoup. Et donc la Belgique a voulu la faire partir à tout prix. On a mis les grands moyens et l'État belge est arrivé à la tuer lors de sa 6e tentative d'expulsion. Donc elle avait 20 ans il y a 20 ans, elle n'a jamais eu plus que 20 ans. Et 20 ans plus tard, nous sommes là pour rappeler sa mémoire, son combat et pour parler aux plus jeunes. Effectivement, les jeunes de 20 ans aujourd'hui n'ont pas connu cette histoire-là et c'est une histoire qui a vraiment marqué la Belgique. Donc on est là pour le rappeler.
Parce que de ce que je me souviens, oui, bon, il y a 20 ans, j'avais 20 ans aussi, enfin un peu plus, mais bon, j'ai l'impression que c'est aussi le moment où on a commencé réellement à médiatiser les migrants, les sans-papiers, qu'avant c'était presque anecdotique, qu'il n'y avait pas vraiment une prise de conscience au niveau de la population de ces expulsions, et que là vraiment ça a été... l'élément déclencheur, quelque part.
Ça a été l'élément déclencheur, mais avant, il y a eu tout le travail et tout le combat mené aux côtés de Semira et d'autres personnes, hein, enfermées en centre fermé. Semira n'était pas la seule. C'était un travail qui était mené par un groupe de gens qui s'appelait le collectif contre les expulsions. Et eux, leur principal moyen d'agir, c'était de se rendre dans les aéroports et d'avertir les passagers que dans leur avion, il allait se trouver quelqu'un qui allait être expulsé. Ça a commencé en mars 98, Semira a été assassinée le 22 septembre 98, mais ils ont commencé ce type d'action en mars 98, parce qu'en mars 98, la France les a avertis que des Congolais, qui étaient déboutés du droit d'asile en France, allaient être expulsés vers le Zaïre à l'époque, via la Belgique, via Bruxelles, via la Sabena. Et c'est à ce moment-là qu'un groupe de jeunes, qui s'est appelé le collectif contre les expulsions, a décidé d'agir et a continué d'agir. C'est eux qui ont eu un lien avec Semira et avec d'autres. Il s'est passé énormément de choses entre mars 98 et septembre 98. Pendant ces 6 mois après, le collectif a continué à agir. Mais évidemment, le choc de cet assassinat d'État a marqué beaucoup les esprits et les actions se sont déroulées aussi de manière différente. Mais notamment, ils ont envahi le Parlement et obtenu la démission du ministre à l'époque, ce qu'on n'a pas obtenu ni même demandé aujourd'hui lors de l'assassinat de la petite Mafda.
Si vous voulez ajouter quelque chose.
Oui, c'est vrai que les mouvements de sans-papiers étaient peu présents. Ils ont existé dans les années 70, mais à cette époque-là, ça a démarré autour de 98, un petit peu avant. L'impulsion est venue de France et puis le drame, l'assassinat de Semira Adamo a un peu déclenché pas mal de choses. Déjà, qui essayaient déjà de revendiquer mais qui n'osaient pas trop, sont vraiment sortis, sont descendus dans la rue après la mort de Semira.
On a connu beaucoup. J'ai donné mon micro.
On connaît maintenant pas mal d'occupations de sans-papiers, etc. C'est vrai que la première grosse occupation de sans-papiers après les années 70, elle a commencé un mois pile après la mort de Semira. C'était le 22 octobre 98 à l'église du Béguinage. Et ça a été le début d'un long mouvement qui n'est pas fini. Si on est là aujourd'hui, c'est parce que les revendications des sans-papiers, de Semira, etc. sont loin d'être entendues par nos gouvernements.
Oui, c'est ça. On est 20 ans après. Et 20 ans après, finalement, qu'est-ce qui a...
J'ai la démission de Théo Franken. Moi, je pense que ce serait intéressant qu'on exige la suppression du secrétariat d'État et que les attributions qui concernent l'asile et la migration retournent au ministère de l'Intérieur. Et
ça changerait ou au ministère de la Justice, comme c'était
ou avant. Au ministère de la Justice.
Et qu'est-ce que ça changerait, en fait ? Est-ce que vous pensez que, justement, ce secrétaire d'État à l'asile et à la migration est plus une fonction répressive qu'accueillante ?
En tout cas, c'est ce qu'on voit de plus en plus. On l'a déjà connu auparavant, sous un premier ministre socialiste, Di Rupo, avec Maggie de Bloch. On l'a connu très très fort, c'était hyper répressif. Et beaucoup de choses ont sauté, notamment tout ce qui concerne la protection neuf-terre, tout ce qui est urgence médicale. Beaucoup de choses ont été supprimées ou transformées en moins, et pas vers un plus, pas plus d'aide, mais moins d'aide. Et aujourd'hui, avec Franken, c'est encore pire. Mais en effet, moi je pense que l'objectif de ce secrétariat d'État, qui est très convoité par des partis de droite, voire de droite extrême, est plutôt un objectif électoraliste.
Oui, moi je vais revenir sur qu'est-ce qui a changé depuis. Pas grand-chose, comme l'a dit Laurette, toutes les politiques à l'égard des migrants, que ce soit l'asile ou... les demandes de regroupement familial, de travail, etc., se sont durcies. On n'arrête pas d'être de plus en plus suspicieux, de mettre des conditions de plus en plus élevées, etc. Concernant vraiment l'histoire de Semira Damou, donc c'était les centres fermés, les expulsions, il y a une toute petite chose qui a changé, c'est qu'après Semira, on a supprimé le coussin, puisqu'à l'époque, les gendarmes utilisaient un coussin pour empêcher la personne de se débattre et de faire trop de bruit dans l'avion. Donc on mettait un coussin sur son visage, et c'est ça qui a étouffé Semira. Ça, depuis, le coussin était interdit, mais il y a d'autres techniques tout aussi violentes qui se sont mises en place, donc il n'y a pas grand-chose qui a changé. Un autre point qui avait changé, mais pas directement suite à Semira, mais suite à d'autres condamnations de la Belgique par la Cour des droits de l'homme, c'est que on s'était quand même, la Belgique avait quand même eu ce minimum de scrupules de dire des enfants en centre fermé, c'est quand même pas normal, c'est pas normal des enfants en prison. Donc on avait supprimé les enfants, les mineurs isolés ou les familles avec enfants, on les avait sortis des centres fermés. Eh bien, notre nouveau secrétaire d'État à l'asile et à la migration a décidé de redurcir les choses. Et donc là, il a ouvert une aile pour les enfants et c'est imminent. On attend d'un jour ou l'autre que des enfants soient de nouveau enfermés au 127 bis à Steenhokkerzeel.
Il y a une manifestation demain, il me semble.
Alors, on attend. En fait, tout le monde est sur le qui-vive. Et le jour où on apprend qu'il y a le premier enfant dans un centre fermé, c'est rendez-vous à 5h30 devant le Manneken Pis. Comme ça, on donne déjà l'info.
Oui, on enfermera le Manneken Pis. Il est d'ailleurs déjà derrière des barreaux. C'est un symbole vraiment, vraiment fort. Et j'espère qu'on sera très, très nombreux. Ce sera à l'improviste. Enfin, ce sera le jour où on apprendra que la première famille avec enfant a rejoint cette nouvelle aile du 127 bis. Mais c'est imminent, comme dit Mathieu. Ça peut se passer aujourd'hui. Donc peut-être plus aujourd'hui, mais ça peut se passer lundi.
Alors, donc vous êtes le collectif, donc la coordination, pardon, Semira Damou.
2018, c'est une coordination ponctuelle en fait qui s'est réunie cette année pour organiser, pour marquer le coup des 20 ans de l'assassinat de Semira Damou.
Voilà, ce n'est pas une association qui fonctionne d'aide aux migrants ou justement d'un collectif aussi contre les expulsions. Et c'est une initiative qui est partie comment de plusieurs autres plateformes, parce que je pense à la plateforme citoyenne, évidemment. Ouais.
C'est parti, en fait, quasiment chaque année, le 22 septembre, puisque c'est la date de la mort de Semira Damou, il se passe quelque chose. Selon les années, selon les forces militantes disponibles, c'est parfois juste une petite manif, parfois c'est des plus gros rassemblements. Et donc des personnes qui participent, qui organisent ces manifestations chaque année, se sont dit bien à l'avance, il y a presque un an, en disant... 2018, ce sera les 20 ans, et on va essayer de faire quelque chose, on va marquer le coup. Et donc, on a quelques-uns, on s'est vu, on a lancé l'idée, on a mobilisé tout le réseau qui est déjà bien existant sur le sujet, et voilà, et on s'est mis ensemble, et on a décidé de s'appeler Coordination Semira 2018, donc c'est tout à fait ponctuel, c'est une coordination qui va durer une année, le temps de mettre en place tout ce qu'on veut faire cette année, mais qui a quand même dans l'idée de ne pas s'arrêter à juste commémorer, parce que si on entretient la mémoire de Semira et son combat, c'est pour dire qu'il est toujours actuel et qu'il faut le prolonger. Et donc on espère que toutes ces mobilisations en mémoire de Semira donneront un coup de pouce, un souffle supplémentaire à toutes les mobilisations qui existent déjà maintenant autour des migrants, autour du parc Maximilien, autour des collectifs de sans-papiers, etc.
Ce que j'allais dire, c'est est-ce que ce n'est pas encore une association en plus ? Pourquoi ne pas rassembler toutes les forces ? Mais finalement, en fait...
Mais elle rassemble, cette coordination rassemble toutes ces associations, puisque c'est vrai que c'est parti de forces vives, de quelques personnes toujours concernées et qui étaient déjà, pour la plupart d'entre elles, concernées en 98. On n'a pas 20 ans non plus. très vite, ça a fait tache d'huile et plein d'associations se sont joints à la coordination. Il y a le CIRE, il y a le CRER qui sont là, qui sont avec nous ici au Village des Possibles. Mais il y a la plateforme citoyenne d'aide aux réfugiés. Il y a énormément d'associations.
Il y a des lieux culturels, des petits collectifs, il y a un peu de tout. Et beaucoup d'individus aussi, d'activistes qui sont là à titre personnel.
On est 80, hein, c'est ça. On a dénombré 80 personnes et c'est ouvert. Puisque la coordination, elle va continuer à agir pendant toute cette année des 20 ans. On reste ouvert, si on veut rejoindre la coordination Semira, c'est tout à fait possible. Il y a un appel qui a été lancé, et de nouveaux signataires et de nouvelles personnes qui veulent organiser des choses petites dans leur coin, dans leur village, ou plus grosses, elles sont absolument les bienvenues au sein de cette coordination. Il y a un site, Mathieu, tu sais...
3xW, Semira, donc c'est S-E-M-I-R-A. S-E-M-I-R-A, Adamu, A-D-A-M-U, 2018.be.
Voilà, donc là on peut avoir toutes les infos. Et vous prévoyez quoi alors pour le 22 septembre actuellement ?
Qu'est-ce qui va se passer le 22 ? Mais en fait, c'est tout le week-end, il va se passer des choses même déjà avant, à partir du 14 septembre, et en tout cas jusqu'au 13 octobre. Là, le premier mois, il va être très chargé. Mais le week-end du 21, 22, 23, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont prévues. Et à gauche, à droite, bon, moi, je sais qu'il y a des choses, je ne les ai pas en tête. Je suis désolée, il y a des choses qui se passent à Liège, à Charleroi, à Gand, à Louvain, dans le courant du mois. Le 21, 22, 23, on est plus concentré sur Bruxelles. Le 22, on sera au parc Maximilien. Et c'est une soirée qui va démarrer aux alentours de 17h, se terminer aux alentours de 22h30. Une soirée de concerts et de témoignages et de fabrication d'une alternative. Ensemble, d'une alternative commune, il y aura des stands, il y aura à manger, il y aura un esprit un peu festivalier, un esprit un peu comme celui d'Esperanza, mais sur une soirée. Et il y aura des artistes qui nous soutiennent, qui soutiennent la coordination, et qui se produiront gratuitement dans ce cadre-là. Mais je laisse Mathieu en parler.
Les artistes, oui. Donc, le samedi 22, il y aura un peu de tous les styles. Hein. L'idée, c'est vraiment de rassembler la population dans toute sa diversité. Donc on a une chorale qui chantera des chants de lutte, et notamment une chanson qui a été écrite par l'artiste Claude Semal sur Semira. On aura Noé Préchauffe, qui est un jeune chanteur à texte qui a accompagné pas mal de mouvements de sans-papiers, le mouvement des Afghans, la marche pour les papiers, etc. et qui a écrit plusieurs chansons sur ces luttes-là, donc qui chantera également par Maximilien. On aura Dalva, c'est un groupe de musiciens vraiment très talentueux et une chanteuse remarquable qui reprennent des vieux standards, des vieux classiques du blues, qui est aussi évidemment la musique du combat des personnes de couleur pour leur émancipation, et ils les remettent au goût du jour. C'est vraiment très puissant. Ensuite on a du hip-hop avec VIK,
un tout jeune rappeur bruxellois qui sort son premier album en octobre. Donc il va chauffer le parc Maximilien, mais il va se chauffer aussi.
Puis, comme Semira était nigériane et que la musique
de lutte, elle voulait devenir chanteuse.
Et que la musique emblématique du Nigeria et aussi de toutes ces luttes, c'est l'afrobeat. On terminera par un groupe d'afrobeat, Asmani. C'est un groupe d'afrobeat plutôt éthiopien que nigérian, mais c'est assez proche. Et voilà, et peut-être quelques invités surprises dont on n'a pas encore la confirmation. Mais...
Ou une surprise. Voilà, donc ça c'est pour... ces événements, donc ils vont se dérouler, il y en aura plusieurs, il faut se tenir au courant.
Oui, donc ça c'est la partie parler. Vraiment rassembleuse autour de la musique qui était ce que voulait faire Semiray, qui a le don de rassembler. On aura du théâtre aussi à la Maison du Livre, on aura tout un moment plutôt de réflexion, un séminaire pour réfléchir d'où viennent nos luttes et où elles en sont aujourd'hui.
À
l'Université populaire à Saint-Gilles. Et le dimanche 23, on a rendez-vous tous à 14h au 127 bis pour une fois de plus dénoncer les centres fermés. Et on espère, il y a des manifs régulièrement devant le 127 bis, il y en aura évidemment quand ils enfermeront de nouveau des enfants, mais c'est pas très accessible le 127 bis. Donc on est souvent en petit comité dans les manifs. Là, on espère mobiliser, qu'on soit enfin des milliers pour voir l'horreur que sont les centres fermés et dire qu'on n'en veut plus.
Alors, est-ce que, justement, avec tout ce qui se passe aujourd'hui au Parc Maximilien, avec la plateforme citoyenne qui fait quand même pas mal parler d'elle, les mesures que Théo Franken prend également, le gouvernement est totalement dans une optique anti-migrant, on ne peut pas le nier. Est-ce que vous pensez qu'il y a une plus grande mobilisation citoyenne aujourd'hui, que les gens sont peut-être plus touchés, ou est-ce qu'on voit quand même un énorme clivage entre ceux qui ne veulent pas des migrants et qui s'expriment en tant que tels? Et de l'autre côté, ces gens qui veulent s'investir pour... Comment ça se passe un peu?
Mais c'est une question très personnelle, je trouve, que tu poses là, parce que... Est-ce qu'il y a une plus grande mobilisation citoyenne aujourd'hui, en 2018, qu'en 1998? Sans doute, en 1998, il n'était pas question d'indifférence, mais les gens n'étaient pas au courant. Il y a eu un choc, la mort de Semiray, ça a été un choc dans l'opinion publique, et ça a vraiment provoqué quelque chose, une prise de conscience très forte. Après, depuis lors, il y a un mouvement citoyen, il y a la société civile, elle avance, et elle avance pas du tout dans le même sens que nos dirigeants, elle va dans un autre sens. De plus en plus, et c'est vrai que la plateforme citoyenne, je pense qu'il y a 40 000 adhérents sur Facebook, sur le site d'hébergement, elle fait beaucoup parler d'elle. C'est la pointe de l'iceberg, hein, parce qu'il y a énormément d'autres choses en dessous de la plateforme citoyenne. Il y a aussi toutes les occupations et tous les soutiens des occupations. Il n'y a pas que les migrants qui sont de passage, il y a ceux qui sont chez nous depuis tellement longtemps et qui vivent dans des conditions d'une précarité absolue, même si leurs enfants sont scolarisés, même si ils ont accès à certaines choses, ils restent des citoyens de seconde zone. Et c'est terrible de devoir reconnaître ça. Et l'échec du gouvernement et de l'Europe, au-delà du gouvernement belge, par rapport à ces situations, parce que c'est des situations qu'on ne connaît pas que seulement en Belgique, on les connaît dans d'autres pays.
On parle d'ailleurs d'Europe citadelle. Hein.
Pardon ?
D'Europe forteresse.
D'Europe forteresse, oui, on en parle depuis longtemps. On parle d'Europe forteresse depuis très longtemps. Et donc voilà, oui, la mobilisation, elle continue à évoluer dans la société civile. Et peut-être qu'elle devient plus forte, mais la répression devient plus forte aussi. En septembre, il va y avoir un procès. Il y a 12 personnes qui sont inculpées de trafic d'êtres humains. Des personnes qui sont des hébergeurs de migrants, que pour une raison ou une autre, on a réussi à inculper. Il y en a qui sont en prison pour le moment, depuis plus de 8 mois, sous ce chef d'inculpation.
J'en avais entendu un des hébergeurs qui était donc qui avait été... par la justice en tant que trafiquant.
Oui, oui, oui.
C'est scandaleux.
Oui, oui,
ça ne tient pas debout.
Absolument, ça ne tient pas debout. On a beaucoup entendu parler des deux journalistes, des deux femmes journalistes en question, mais elles ne sont pas seules. Il y en a d'autres, et il y a des personnes d'origine maghrébine, et certains sont en prison aujourd'hui encore, alors qu'on avait ordonné leur libération, mais le parquet a fait appel, donc ils sont toujours en prison. Donc, des situations comme ça, elles sont très inquiétantes. Elles sont très questionnante, qu'on ne peut pas laisser faire. Où est-ce qu'on va, quoi? Je suis curieuse de voir où va mener ce procès de ces 12 personnes, où on va aller. C'est un procès éminemment politique qu'on ne veut pas reconnaître comme tel. C'était déjà le cas du procès du collectif, des membres du collectif contre les expulsions, parce que certains d'entre eux, pas tous, ont été mis en procès quelques années après la mort de Semiray, par rapport au fait qu'ils ont commis des actes délictueux. Mais jusqu'où doit-on respecter la loi quand elle est insupportable et qu'elle amène à des comportements tout à fait inacceptables?
Voilà, donc vous reprenez toutes ces thématiques-là aussi au niveau...
Clair qu'il y aura une soirée consacrée à ça dans le cadre des activités de la coordination Sémira. Et on peut trouver trace de tout ça sur
ce
le
sera
site.
Le, si j'ai bonne mémoire, le 24 septembre.
Voilà. Et donc on se tient encore donc, sur votre site. Donc c'est
Sémira d'Amou 2018.be. Et donc Sémira, c'est avec E. C'est pas Samira, c'est Sémira.
Sémira, oui.
Et avec S.
Et,
S.
Et ici, Festival Esperanza, on a un stand donc, juste à côté de l'espace débat. C'est vraiment à l'entrée de l'abbaye. Vous avez le village des possibles à gauche et juste en face de vous, l'espace débat et notre stand. Donc venez nous voir, on vous en dira plus.
Ok, merci Laurette.
Et,
merci,
et on fait des animations aussi sur le fait que la migration, c'est un parcours du combattant, mais c'est encore plus un parcours de la combattante. Les femmes ont oui. encore plus de difficultés à venir jusqu'ici. Et donc on a des animations là-dessus.
On viendra vous voir.
Merci à vous.
Voilà, merci Laurette, merci Mathieu pour ces infos. Et on vous retrouve donc à l'entrée du festival. On va garder évidemment votre dossier. On continuera encore à parler de cette thématique, en tout cas des femmes et des femmes migrantes également.